Que le diable emporte ! S'écria Cédric. Le couvre-feu, le tyrannique bâtard qu'il a institué, ainsi que l'esclave sans cœur qui le nomme, avec une langue saxonne à une oreille saxonne. Le couvre-feu, répéta-t-il. Oui, le couvre-feu, qui force les honnêtes gens à éteindre leur lumière, afin que les voleurs et les bandits puissent travailler dans les ténèbres. Oui, le couvre-feu. Réginald Front-de-Bœuf et Philippe de Malvoisin connaissaient l'emploi du couvre-feu aussi bien que Guillaume le bâtard lui-même, ou que tout autre aventurier normand qui ait combattu à Hastings. Je vais apprendre, je le devine, que mes bestiaux ont été enlevés pour arracher à la faim les bandits voraces que leurs maîtres ne peuvent entretenir qu'à l'aide du vol et du brigandage. Mon fidèle esclave est assassiné, et mes troupeaux emmenés comme une proie. Et Wamba ? Où est Wamba ? Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il était sorti avec Gurs ?
Oswald répondit affirmativement.
Bon. Voilà qui va de mieux en mieux. On l'a emmené aussi, le fou saxon, pour servir le seigneur normand. Nous sommes tous des fous à la vérité, de les servir, et nous sommes des êtres plus dignes de leur mépris et de leur raillerie que si nous étions nés avec la moitié seulement de notre intelligence. Mais je veux me venger, ajouta-t-il, en s'élançant de sa chaise avec impatience, sur le seul soupçon de cette injure et en saisissant son épieu. Je veux aller porter ma plainte devant le grand concile. J'ai des amis, j'ai des vassaux. Homme à homme, je défierai le Normand au combat. Qu'il vienne avec sa cuirasse et sa cotte de maille, et tout ce qui sert à donner du courage à la couardise. J'ai envoyé un javelot comme celui-ci, au travers d'un obstacle trois fois plus solide que leur bouclier de guerre. Peut-être me jugent-ils vieux, mais je leur apprendrai, tout seul et sans fils, comme je me trouve, que le sang de Hereward est dans les veines de Cédric. Ah! « Wilfrid, Wilfrid !» s'écria-t-il en baissant la voix. « Si tu avais su régler ta passion insensée, ton père ne serait pas délaissé dans sa vieillesse comme le chêne solitaire qui laisse pendre ses branches brisées et sans appui au souffle de la tempête. »
Cette dernière réflexion parut par sa tristesse conjurer ses sentiments irrités. Replaçant son javelot derrière sa chaise, il reprit sa place, tourna ses yeux vers la terre et sembla se laisser aller à de mélancoliques pensées. Cédric était plongé dans ses rêveries quand il en fut tout à coup tiré par le son retentissant d'un corps auquel répondirent les cris et les aboiements bruyants de tous les chiens présents dans la salle ainsi que de 20 ou 30 autres disséminés dans les diverses parties du bâtiment. Il fallut un bon emploi du bâton blanc assisté des efforts des domestiques pour réduire au silence ces clameurs canines.
« Allez à la porte, mes drôles !» dit le Saxon brusquement.
Aussitôt que le tumulte fut assez apaisé, pour que les serviteurs puissent entendre sa voix.
« Voyez quelle nouvelle ce corps nous annonce. Je ne doute pas que ce soit celle de quelque vol et de quelque rapine exercée sur mes terres. »
Mais, revenant en moins de 3 minutes, un garde annonça que le prieur émère de Jorvaux et le bon chevalier Brian de Bois-Guilbert, commandeur de l'ordre vénérable et vaillant des chevaliers du Temple, avec une petite suite, demandait l'hospitalité et le gîte pour la nuit, vu qu'ils étaient en route pour un tournoi qui devait se tenir dans 2 jours, non loin d'Ashby de la Zouche.
Émer, le prieur Émer, le commandeur Brian de Bois-Guilbert, murmura Cédric. Tout de Normand. Mais que ce soit des Normands ou des Saxons, il ne faut pas que l'on mette en doute l'hospitalité de Rotherwood. Et ils sont les bienvenus, puisqu'il leur a plu de s'arrêter. Ils eussent été mieux venus encore s'ils avaient voulu continuer leur route. Mais il serait indigne de nous de murmurer pour le gîte et la nourriture d'une nuit. En qualité d'hôte, au moins, les Normands même sont obligés de contenir leur insolence. Allez, Indibert, ordonna-t-il à une espèce de majordome qui se tenait devant lui avec une baguette blanche. Prenez 6 domestiques et introduisez ces étrangers au logement des hôtes. Qu'on soigne leurs chevaux et leurs mules et que leur suite n'ait besoin de rien. Qu'on leur donne des vêtements de rechange s'ils en désirent, du feu et de l'eau pour se laver, ainsi que du vin et de l'ale. Ordonnez aussi au cuisinier d'ajouter à la hâte quelque chose à notre repas du soir, et qu'on le serve sur la table aussitôt que ces étrangers seront prêts à le partager avec nous. Dites-leur, Indibert, que Cédric lui-même leur souhaiterait la bienvenue en personne, mais qu'il a fait vœu de ne jamais s'éloigner de plus de 3 pas de son siège d'honneur pour aller au-devant de ceux qui ne sont pas du sang royal saxon. Partez! Faites qu'on ait grandement soin d'eux,
qu'ils ne disent pas, dans leur orgueil, que le rude Saxon a montré à la fois sa pauvreté et son avarice. Le majordome sortit avec plusieurs serviteurs pour exécuter les ordres de son maître. « Le prieur est maire, » répéta Cédric, se tournant du côté d'Oswald. « C'est, si je ne me trompe, le frère de Gilles de Maulevé, maintenant seigneur de Middleham. » Oswald fit un signe respectueux d'assentiment. « Son frère est assis à la place et usurpe le patrimoine d'une meilleure race, celle d'Uvgar de Middleham. Mais où est le seigneur normand ? Qui n'en ferait pas de même. Ce prieur est, comme on dit, un prêtre franc et gaillard qui préfère la coupe et le corps à la cloche et aux missels. C'est bien. Qu'il vienne, il sera le bienvenu. Comment avez-vous nommé le Templier ?
Brian de Bois-Guilbert.
Bois-Guilbert, dit Cédric, toujours du ton rêveur et réfléchi que l'habitude de vivre avec des inférieurs l'avait accoutumé à prendre et qui le faisait ressembler à un homme parlant à soi-même plutôt qu'à ceux qui l'entourent.
« Bois-Guilbert. Ce nom a été répandu au loin pour le bien et le mal. On dit qu'il est aussi vaillant que les plus braves de son ordre, mais souillé de leurs vices ordinaires. L'orgueil, la cruauté, l'arrogance et la volupté. Un homme implacable, qui ne craint ni ciel ni terre. Ainsi dit le petit nombre de guerriers qui sont revenus de Palestine. Eh bien, ce n'est que pour une nuit, il sera donc aussi le bienvenu. » Oswald, mettez en perse le baril de notre vin le plus vieux. Servez sur la table le meilleur hydromel, l'âle la plus forte, le plus riche morat, le cidre le plus mousseux, les pigments les plus odorants. Remplissez les cornes les plus vastes. Les templiers et les abbés aiment le bon vin et la bonne mesure. Elgita, dites à Lady Rowena que ce soir, nous ne l'attendrons pas dans la salle, à moins que ce ne soit son bon plaisir.
Ce sera son bon plaisir ? Répondit vivement Elgita, car elle est toujours avide d'entendre les dernières nouvelles de la Palestine. Cédric lança à la demoiselle impertinente un regard de prompt ressentiment. Mais Rowena et tout ce qui lui appartenait avaient des privilèges et étaient à l'abri de sa colère.
Il se contenta donc de répliquer
« Tais-toi, jeune fille. Ta langue devance ta discrétion.
Rapporte mon message à ta maîtresse et qu'elle fasse ce que bon lui semblera. » « Ici, au moins, celle qui descend d'Alfred règne toujours en princesse. »
Elgita quitta l'appartement.
« Palestine, » répéta le Saxon. « Palestine, combien d'oreilles s'ouvrent aux histoires que des croisés dissolus ou des pèlerins hypocrites apportent de cette terre fatale. Moi aussi, je pourrais demander. Moi aussi, je pourrais questionner. Moi aussi. » Je pourrais écouter avec un cœur palpitant les fables que des vagabonds rusés inventent pour nous escroquer l'hospitalité. Mais non, le fils qui m'a désobéi n'est plus mon fils, et je ne veux pas m'occuper de son sort plus que de celui du dernier vaurien perdu parmi les millions de bandits qui ont porté la croix sur leur épaule et qui se sont livrés aux excès et au carnage tout en disant qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu. »
Et son front se rida, et pendant un moment il fixa ses regards sur la terre. Lorsqu'il leva les yeux, la porte située à l'extrémité de la salle s'ouvrit à deux battants et, précédé du majordome armé de sa baguette et de quatre domestiques portant des torches allumées, les convives du soir firent leur entrée dans la salle.